Chapitre 4, qui dans sa brièveté puissante nous jette sur les confins du monde sensible. 2 mois s'écoulèrent. Le remue-ménage ne cessant pas, M. Sarriette songea aux francs-maçons. Les journaux qu'il lisait étaient pleins de leurs crimes. M. l'abbé Patouille les jugeait capables des plus noires scélératesses et croyait qu'ils méditaient, d'accord avec les juifs, la ruine totale de la société chrétienne. Parvenu à cette heure au comble de la puissance, il dominait dans tous les grands corps de l'État, dirigeait les chambres, avait 5 des leurs au ministère, occupait l'Élysée. Ayant naguère assassiné, pour son patriotisme, un président de la République, il faisait disparaître les complices et les témoins de leur exécrable forfait. Peu de jours se passaient sans que Paris, épouvanté, n'apprît quelques meurtres mystérieux préparés dans les loges. C'était là des faits qu'on ne pouvait mettre en doute. Par quels moyens pénétrait-il dans la bibliothèque? Monsieur Sarriette ne pouvait le concevoir. Quelle besogne y venait-il accomplir? Pourquoi s'attaquait-il à l'antiquité sacrée et aux origines de l'Église? Quel dessein impie formait-il? Une ombre épaisse couvrait ses entreprises épouvantables. L'archiviste catholique, se sentant sous l'œil des fils d'Hiram, terrifié, tomba malade. À peine remis, il résolut de passer la nuit à l'endroit même où s'accomplissait le si effroyable mystère et de surprendre ses visiteurs subtils et redoutables. Cette entreprise coûtait à son timide courage. Faible de complexion, d'esprit inquiet, M. Sarriette était naturellement sujet à la peur. Le 8 janvier à 9 heures du soir, tandis que la ville s'endormait sous une tourmente de neige, ayant fait un bon feu dans la salle qu'ornaient les bustes des poètes et des philosophes anciens, il s'enfonça dans un fauteuil au coin de la cheminée, une couverture sur les genoux. Un guéridon placé sous sa main portait une lampe, un bol de café noir et un revolver emprunté au jeune Maurice. Il essaya de lire le journal La Croix, mais les lignes lui dansaient sous les yeux. Alors, il regarda fixement devant lui, ne vit rien que l'ombre, n'entendit rien que le vent, et s'endormit. Quand il se réveilla, le feu était mort. La lampe éteinte répandait une âcre puanteur. Autour de lui, les ténèbres étaient pleines de clartés laiteuses et de lueurs phosphorescentes. Il crut voir quelque chose s'agiter sur la table. Pénétré jusqu'aux os d'épouvante et de froid, mais soutenu par une résolution plus forte que la peur, il se leva, s'approcha de la table et passa les mains sur le tapis. Il n'y voyait goutte. Les lueurs mêmes avaient disparu. Mais il sentit sous ses doigts un in-folio grand ouvert. Il voulut le fermer. Le livre résista, bondit, et frappa 3 rudes coups sur la tête de l'imprudent bibliothécaire. Monsieur Sarriette tomba évanoui. Depuis lors, les choses ne firent qu'empirer. Les livres quittaient plus abondants que jamais la tablette assignée. Et parfois, il était impossible de les y réintégrer. Ils disparaissaient. M. Sarriette relevait chaque jour des pertes nouvelles. Les bolandistes étaient dépareillés. 30 volumes d'exégèse manquaient. Il n'était plus reconnaissable. Sa tête devenait grosse comme le poing et jaune comme un citron. Son cou s'allongeait démesurément. Ses épaules tombaient. Les vêtements qu'il portait semblaient pendus à un clou. Il ne mangeait plus. Et à la crémière des 4 évêques, l'œil morne et la tête baissée, il regardait fixement, sans la voir, la soucoupe où, dans un jus trouble, baignaient ses pruneaux. Il n'entendait pas le père Guinardon annoncer qu'il resterait enfin les peintures de Delacroix à Saint-Sulpice. M. René d'Esparvieux, au rapport alarmant du malheureux conservateur, répondit sèchement « Ces livres sont égarés, ils ne sont pas perdus. Cherchez bien, M. Sarriette, cherchez bien, et vous les retrouverez. » Et sur le dos du vieillard, il murmurait « Ce pauvre Sarriette file un mauvais coton. »« Je crois » ajoutait l'abbé Patouille, que sa tête déménage.